si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez le cinéma. Et donc aujourd'hui, je vous parle, bonjour, bonjour, je vous parle de Robert Mulligan et surtout d'un de ses films qui a eu beaucoup de succès et qui est un film excellent et qui actuellement fait partie du dispositif Collège et Cinéma. Donc ça me fait plaisir d'en parler. Il s'agit du Silence et des Ombres, un film de 1962 en noir et blanc avec Gregory Peck. Et Gregory Peck qui d'ailleurs pour ce film a eu un Oscar et ce film a obtenu également un Oscar pour les décors ainsi que pour l'adaptation puisque Du Silence et des Ombres était l'adaptation d'un roman d'une romancière Harper Lee et qui avait écrit un livre, d'ailleurs le titre exact parce que là on dit Du Silence et des Ombres mais le vrai titre c'est To Kill a Mockingbird, c'est-à-dire ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, voilà, et c'était le titre du livre. Mais pour commencer, puisque Robert Mulligan c'est un homme extrêmement discret dans le panorama hollywoodien. En revanche, quand il a réalisé des films, il a fait souvent mouche. Et notamment, c'est un film qui date de 71, mais je voudrais vous faire entendre la musique. Quand on l'a entendu une fois, on s'en souvient. C'est une musique de Michel Legrand et c'était la musique de l'été 42. On l'écoute tout de suite au piano Michel Legrand et chantant Sarah Vaughan.
Love, 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 love
Vous venez d'entendre la musique du film « L'été 42 » de Robert Mulligan, un film de 1971. Et la musique était signée Michel Legrand, et vous venez de l'entendre, il était au piano. Et c'était Sarah Vaughan qui chantait, voilà, évidemment, duo magnifique, comme vous l'avez pu le constater. Alors, pourquoi cette mise en page, si je puis dire? C'est tout simplement parce que je vous parle de Robert Mulligan, mais de son film en particulier, Du silence et des ombres. Et donc, je le disais en introduction, Robert Mulligan, et c'est vrai que c'est un cinéaste vraiment trop méconnu, parce qu'il a fait vraiment des films remarquables. Alors, vous savez, dans le cinéma américain, bah, évidemment, on connaît surtout les westerns. Les westerns, j'ai envie de dire que c'est les grandes plaines, les grandes chevauchées, les montagnes rocheuses, la Sierra Nevada, c'est tout le nord de l'Amérique. En revanche, tous les autres films, c'est ce qu'on appelle l'Americana, c'est-à-dire sont plutôt les régions du sud, avec notamment l'Alabama, la Louisiane, le Mississippi, etc., etc. Et donc le film Du silence et des ombres se passe dans cette région du sud, et notamment on est dans cette deuxième moitié, on est en 1930, je crois exactement, 32, c'est une... On est donc dans le sud et évidemment sévit, il y a un problème de racisme complètement évident, et donc ça fait partie de l'histoire du film, évidemment. Alors il faut savoir que ces régions du sud, ce qu'on appelle donc l'Americana, ben, vous avez d'autres réalisateurs qui vont ensuite tourner de cette façon-là, notamment Terrence Malick, Les Moissons du ciel, c'est un film de 78, c'est dans l'Americana. Clint Eastwood, même sur la route de Madison, qu'on a revu dernièrement à la télévision, c'est aussi dans ce contexte-là. Et puis, chez nos Français, il y a Bertrand Tavernier, qui en 2009 avait fait de la brume, dans la brume électrique, et qui était aussi, parlait aussi de ces régions du Sud. Alors, Du silence et des ombres, eh bien... C'est un film qui propose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est adapté d'un roman, c'est adapté à la lettre, mais il y a la patte de Mulligan, parce que l'image et le son sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que dans ce film, il y a, on va dire qu'il y a deux intrigues dans un même scénario. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des enfants, Scoot et Jem, qui sont fascinés par les histoires d'enfants, c'est-à-dire ils aiment avoir peur d'une certaine façon. Et le second, ben, le père aussi a un peu peur puisqu'il est avocat. Et il se trouve qu'il doit défendre, on le nomme d'office, il doit défendre Robinson qui apparaît-il violé une blanche, parce que Robinson est noir. Et évidemment, on va s'apercevoir que ce n'est pas ça du tout. Enfin bon, je ne vous raconte pas le film, mais c'est vrai qu'il y a ces deux histoires. Et en même temps, où la peur est omniprésente, c'est un film sur la peur. Donc ça tombe bien dans notre contexte d'aujourd'hui. Et en même temps, tout ça permet de grandir. C'est-à-dire, quand on dépasse ça, ça nous permet d'avancer. Donc c'est à la fois un film, c'est un conte fantastique, on peut dire ça, et notamment qui se passe dans la nuit avec des ombres inquiètes, des bruits étranges, voilà. Et surtout, là on est dans ce monde, dans ce conte fantastique, c'est le monde des enfants, où d'ailleurs la plupart du temps ces scènes sont en l'absence d'adultes. Et puis il y a, évidemment, ils ont très peur aussi d'un personnage dont on parle, on ne sait pas très bien qui il est. Vous voyez, cette espèce d'incertitude, de peur, et puis de choses qui sont... on ne le connaît pas, donc forcément, c'est un épouvantail, quoi. Et en réalité, il va s'avérer que le voisin, qui est un homme qui reste toujours planqué chez lui, est un peu simple d'esprit, mais c'est un homme charmant, adorable, et qui va même servir un peu d'ange gardien aux enfants, sans vous dévoiler la fin, bien évidemment. Donc... Et en même temps, je disais que donc un conte fantastique, c'est la première histoire des enfants, mais c'est aussi une chronique réaliste, et avec la voix d'ailleurs de la petite Scout qui est devenue enfant, qui est devenue adulte, et qui raconte ce qui s'est passé quand elle était enfant. On peut dire donc que ce film, par ses peurs successives et les aventures qu'ils vont vivre avec leur père, qu'ils appellent Atticus, eh bien, on peut dire que tout d'un coup, c'est comme un voyage initiatique qui leur permet évidemment de devenir adulte. Voilà. Mais écoutez, je vous propose, si vous en êtes d'accord là-bas à la régie, on s'écoute la bande-annonce de ce film « Du silence et des ombres » de Robert Mulligan, un film de 62.
Ladies and gentlemen, Gregory Peck.
The world never seems as fresh and wonderful, as comforting and terrifying, as good and evil, as it does when seen through the eyes of a child. For a writer to capture that feeling is remarkable. Perhaps that is why one book in the last few years has been so warmly embraced by tens of millions of people. To Kill a Mockingbird, winner of the Pulitzer Prize and just about every other award a book can win. And now, happily, To Kill a Mockingbird becomes a motion picture, and its memorable characters come vividly alive. That Scout, some people call her Jean Louise Finch, but she insists on Scout. That's her brother, Jim, just a boy until the day he learns there is evil in the world. And Atticus Finch, the father, whose devotion to justice places him and his children in jeopardy. I've been appointed to defend Tom Robinson. Now that he's been charged, that's what I intend to do.
You've taken his
trip. Excuse me, Mr. Ewell.
What kind of man are you? You got children of your own.
Atticus, Jim says his watch is going to belong to him someday.
That's right.
What are you going to give me?
There's a pearl necklace. There's a ring that belonged to your mother. You want to tell us what really happened?
I got something to say. And if you ain't gonna do nothing about it, then you're just a bunch of lousy, yellow, stinking cowards!
Vous venez d'entendre donc la bande-annonce du film « Du silence et des ombres ». Et donc, vous entendez cette musique qui apporte une atmosphère inquiétante. Et dans la mise en scène de Mulligan, il y a justement où la peur est omniprésente. Hein, c'est presque le thème central d'ailleurs du film. Eh bien, il arrive par des simples travelling à rentrer dans le regard des gens. Et notamment, il fait aussi bouger les objets. Par exemple, on entend des sons, on ne sait pas si c'est justement ce fameux oiseau extérieur qui fait son nid, parce que je crois qu'il vit surtout la nuit. Donc dans la nuit, on entend des craquements, des brins d'herbe, des machins, et on est un peu comme les deux enfants, un petit peu affolés. Et en même temps, ils se font des idées. C'est-à-dire qu'à côté, on sait que pas loin, il y a une maison où vit un homme qu'on appelle Boo. Et donc c'est un peu comme un, je sais pas comment dire, un loup-garou, quoi. On sait pas très bien, il sort jamais. Donc on fantasme là-dessus. On s'imagine qu'il veut des trucs, et en réalité, il est tout à fait charmant et adorable, et même dans un arbre où il y a un creux, eh bien, Scout et Jem, les deux enfants, découvrent des objets, et on va s'apercevoir que c'est tout simplement Boo qui, mine de rien, amène des objets pour faire plaisir aux enfants. Voilà, donc, c'est pour ça que entre ce que l'on croit, l'apparence, et ce qui est la réalité, voilà, il y a ces jeux de regard, cette peur entraîne vraiment quelque chose qui n'existe pas, évidemment. Et donc, quand je disais que les objets sont importants, à un moment, quand Jem est en train de se balancer sur son rocking chair, eh bien, il part et on s'aperçoit que le rocking chair continue à bouger. Tout d'un coup, nous-mêmes, on se dit, mais attends, c'est fantastique. Ben non, il quitte le rocking chair, il continue à se balancer. C'est d'une réalité implacable, mais ça devient tout d'un coup quelque chose d'assez fantastique. Alors, les personnages sont très intéressants. Parce que ne tue pas l'oiseau moqueur. Les oiseaux moqueurs, c'est un peu la métaphore de Robinson, ce noir que l'on juge et qui est en réalité une victime de la ségrégation, puisque c'est une femme qui lui fait du gringue et qui en réalité veut absolument l'entraîner parce qu'elle a un père qui la bat. Enfin bon, je rentre pas dans le détail, mais enfin bon, c'est assez sordide. J'ai envie de dire que je vous parlais de Boule, cette espèce de voisin un petit peu borderline. Eh bien, c'est aussi lui, l'oiseau moqueur. Ne tuez pas les oiseaux moqueurs. C'est peut-être ça aussi qui vous apprenne peut-être à avancer dans les choses, quoi, évidemment. Et donc, Atticus Finch, parce qu'on se demande qui est le personnage principal. C'est un peu compliqué parce que dans le livre, il semblerait que ce soit Scout, la jeune fille, enfin la gamine, qui est d'ailleurs assez drôle, quoi, parce qu'elle n'hésite pas, elle a pas peur. Elle prend, notamment, il y a un facho de dernière qui s'appelle Ewell, d'ailleurs, entre parenthèses, Bob Ewell, ça fait penser à Evil, le diable, voyez, le mal personnifié, qui veut absolument que le noir soit jugé et condamné, bien évidemment. Et donc il en veut même à Atticus, qui est donc le père de Scout et de Jem, il en veut parce que Atticus va défendre un noir. Donc il commence à lui dire, mais quoi, vous êtes amoureux des noirs, des nègres? D'ailleurs, il ne parle pas de noirs, il parle de nègres. Enfin, ceci dit, ça, c'est des traductions très discutables, parce que moi, j'ai toujours entendu dire, les nègres revendiquent leur négritude, hein. Je veux dire, c'est maintenant, on n'ose pas dire, on dit les blacks. Les noirs, ils n'aiment pas qu'on dise les blacks, ça ne veut rien dire du tout, quoi. Bon, enfin bref, c'est un autre problème, voilà. Donc, c'est un personnage, Atticus, qui est formidable, en plus joué par Gregory Peck. Il a d'ailleurs eu l'Oscar. Parce qu'il a d'abord une élégance formidable, il parle très calmement, pas un mot au-dessus d'un autre, et en même temps, il avance avec force et il fait l'apprentissage de la vie à ses enfants, et notamment à Scout, qui est un peu troublion, avec beaucoup de délicatesse. Notamment, il lui apprend que y a plein de choses qu'il ne faut pas faire, notamment pas se mettre en colère. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un... Oui, on peut dire que c'est un apprentissage qu'il essaie d'amener à Scout. Donc, c'est un très bon père. Mais en même temps, et alors pourquoi les enfants l'appellent Atticus, qui est son prénom? Eh bien, non pas qu'ils ne l'aiment pas, mais il se trouve qu'on le sait à demi-mot, il a perdu sa femme, donc ils ont perdu leur mère. Et donc, il reste assez... pour les enfants, le père, la mère, le père ne remplace pas la mère, donc je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc ils prennent un certain recul. Mais quand tout d'un coup ils vont aller voir le procès et qu'ils vont entendre leur père défendre ce noir, tout d'un coup ils vont être pleins d'admiration et donc ils vont voir leur Atticus comme vraiment leur père, quelqu'un qui les soutient formidablement bien. Alors Jem et Scout, Scout, vous savez que déjà ça veut dire éclaireur. Alors Scout, la jeune fille, c'est bien ça, elle a quand même quelque chose de comme un éclaireur, elle ose, d'ailleurs elle se bat contre les copains, notamment elle a très envie d'aller voir ce qui se passe dans cette maison où il y a ce fameux bout qu'on connaît pas, enfin voilà, elle c'est certainement celle qui a le moins peur, mais peut-être parce qu'elle est jeune aussi, évidemment. Alors Boo, il s'appelle Arthur de son vrai nom. Boo, c'est un personnage, on le voit juste à la fin du film, une espèce de personnage, comment dire, avec un regard d'enfant dans un corps d'homme, un petit peu. On ne le définit pas très bien. Et en même temps, c'est lui qui va sauver les enfants. Mais je ne vous en dis pas plus. Alors, Tom Robinson, c'est le noir. Il ne dit pas grand-chose. Il est un peu apeuré. Mais en revanche, on s'aperçoit que... c'est pour dire que les gens osaient, le dénoncer, alors qu'il suffit de 3 secondes pour comprendre que ça ne pouvait pas être lui, parce que la femme a été battue sur tout son côté gauche, et alors que, justement, Tom Robinson a eu un accident quand il était jeune, et tout son côté gauche est paralysé, ou la main est complètement... Donc, je veux dire, c'est invraisemblable, mais le malheur, c'est que Atticus a beau... défendre son patient, donc Tom Robinson. Robinson, au passage, c'est un peu le rouge-gorge, c'est l'innocence, hein, l'innocence. Eh bien, il n'y a rien à faire. Les jurés le condamneront. Voilà. Et donc, ce qui se terminera mal, évidemment. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant. Et Bob Ewell, ben, il est la caricature de ces... C'est l'incarnation de cet homme du Sud qui est convaincu de l'illégitimité des institutions et qui est anti-nègre, mais d'une façon absolument basique, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même un film très intéressant. Il y a aussi, dans la réalisation du film de Mulligan, ça joue à la fois sur le classicisme et la modernité. Classique parce que, bon, il y a des chants, contre-chants, tout ça, et bien d'aplomb. Mais la modernité, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un peu de l'expressionnisme. Notamment, il y a, par exemple, le film s'ouvre et s'achève sur la voix off de Scout, qui est devenu adulte. Et en même temps, on a quand même, à toutes les séquences, on voit Scout enfant. Et cet enfant moqueur, cet oiseau moqueur, ben, je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la métaphore qui montre tous ces gens qu'on a décidé de nuire, auxquels on a décidé de nuire, sans même avoir de procès, bien évidemment. Et la contemplation, eh bien, ça vient de... pourquoi ? Je vous disais que tout d'un coup, les enfants regardent bien leur père fonctionner, ils le voient en train de défendre un noir... Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, à un moment, ils ont très peur parce qu'il y a un chien enragé. Ben là, quand il le faut, il utilise la force, Atticus. Il prend son fusil et d'un seul coup, il tue le chien. Ça aussi, les enfants sont un peu estomaqués. Ça veut dire que la violence, elle peut être utilisée à bon escient, évidemment. Il ne faut pas non plus se laisser complètement bouffer par un chien enragé, bien évidemment. Donc c'est pour ça que c'est un film qui est très intéressant, parce qu'il ouvre plein de perspectives et de possibilités de choix, et toujours dans une mise en scène qui est faite avec beaucoup de pudeur. Notamment, à un moment, il y a une scène... le personnage de Gregory Peck, qui, je ne sais plus à quel moment ça se passe. Oui, c'est ça, ça y est, j'y suis. C'est à la suite donc du procès. Le juge vient lui dire que Tom Robinson, comme il a été condamné et qu'on l'amène à la prison, il s'est évadé et qu'évidemment, il a été tué. Donc, on lui apprend ça. Donc, alors, le réalisateur a décidé de voir... quelqu'un lui parlait à l'oreille, donc enfin, le juge lui parle à l'oreille. On n'entend rien, bien évidemment. Et le personnage, le juge, sort du champ. Et on reste cadré sur Gregory Peck, qui est de dos, qui reste un moment un peu, vous savez, comme la douleur, mais avec qui est, ça se voit dans son dos, mais c'est filmé avec beaucoup de pudeur. C'est un moment formidable, il reste raide comme ça. On sent que la respiration est courte, donc c'est quand on sait qu'il a eu l'Oscar, on peut le comprendre parce que tout son jeu est très profondément émouvant, mais sans explosion, vous savez, un petit peu très hollywoodienne, où tout d'un coup je hurle, je pleure, je m'agite. Non, tout ça est fait avec beaucoup de finesse, évidemment, c'est assez remarquable. Hein. D'ailleurs, voilà, c'est une sorte de stoïcisme d'Atticus, mais qui est extrêmement bien joué par Gregory Peck. On est dans un mélodrame, mais sans la gestuelle du mélodrame, évidemment. Et puis, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a comme un langage du corps, hein, on pourrait dire ça. Et puis, quand on pense aussi, quand on voit ces enfants, que ce soit les enfants d'ailleurs ou les adultes, ont peur pour des raisons différentes, les autres parce qu'ils aiment le fantastique et les adultes parce qu'ils sont dans la réalité, Mulligan a utilisé des zooms. Des zooms, vous savez, c'est tout d'un coup la focale qui avance hein, et qui donc fait des plans beaucoup plus rapprochés à partir d'un plan moyen ou général. Et ça se rapproche terriblement et ça reste sur un très gros plan des visages. Ça capte le regard. Le regard, et je crois qu'il y a il y a un critique de cinéma qui, en parlant de ce film, justement, parlait de regard métaphysique. Bon, il est vrai que je ne vous ai pas parlé complètement de la biographie de Robert Mulligan, mais bon, peu importe. En revanche, là, ça paraît intéressant parce que Mulligan avait eu l'intention de devenir séminariste. curé. Voilà. Et puis, il s'est aperçu qu'il aimait trop les femmes, quoi. Finalement, non, il a préféré ne renoncer. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre... Le Bob Ewell qui s'appelle Evil, qui est donc le diable. Et puis cet homme, Gregory Peck, Atticus, qui est d'ailleurs... Atticus, c'était un correspondant de Cicéron. C'était la sagesse. Donc voilà, Gregory Peck, c'est la sagesse. Donc tout ça, effectivement, va avec le personnage de Mulligan, qui a encore la foi, quoi. Et même quand à la fin, il filme, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, cette femme qui hurle, c'est la nommée Mayella qui prétend que le noir l'a violée, ce qui évidemment est complètement faux, parce que si elle a été, si elle a le visage complètement tuméfié, c'est son père, Bob Ewell, qui la bat. Donc ça n'a rien à voir, et bon, on finit par le découvrir. Et donc, il y a une espèce de terreur, là aussi, qui se lisse en son regard, et c'est surtout, quand la caméra se rapproche du visage, on sent qu'elle cherche toujours un appui à l'extérieur. Elle n'arrive pas à regarder les gens en face. Elle cherche un appui qu'elle n'a pas, évidemment, puisqu'il est hors champ. Voilà, et donc, c'est intéressant, parce qu'on la voit complètement paumée, ça accentue davantage son mensonge, et puis sa douleur, enfin, parce que, certes, si le noir ne l'a pas... violée, elle est battue par son père, donc on ne peut pas dire que ce soit évidemment très, très, très sympa, quoi. Donc voilà, c'est un film qu'il faut recommander, je crois même aux enfants, parce que justement c'est un film avec des enfants, mais qui permettent, qui en disent long sur la réalité des gens, la réalité terrifiante des gens, qui va aussi, et dans le conte fantastique, on s'aperçoit qu'il est plus, il est moins dangereux, puisque on croit qu'on a peur de personnages qui sont dans un conte fantastique, et en réalité, c'est des gens qui vous aident à grandir, quoi, voilà. Donc, il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce film. Peut-être que j'y reviendrai une autre fois avec des extraits peut-être plus longs du film. Mais en attendant, on va s'arrêter là. Donc, parce que je crois qu'on est à peu près dans les temps. Donc, merci à la régie. Et on se retrouve mercredi prochain.